Bonjour, vous écoutez le Café du Centre, le podcast où on se rassemble pour parler d'actu et d'enjeux de société. Installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et laissez-vous emporter par une génération engagée.
Hello Delphine.
Salut JC.
Comment vas-tu?
Écoute, ça va très bien, et toi?
Bah écoute, super. Merci d'avoir accepté mon invitation au Café du Centre.
Merci beaucoup de m'avoir invité, je suis très contente d'être là.
Je voulais en savoir un petit peu plus sur toi, parce que comme t'es mon nouvelle collègue chargée de com,
et oui,
qu'on va être amené à beaucoup travailler ensemble, je trouvais ça important d'en savoir un petit peu plus sur toi.
Alors je peux commencer par te dire que je m'appelle Delphine. Voilà, je m'appelle Delphine Vrinck, même si ça se prononce avec un V, même si c'est un W. J'ai 26 ans et je viens de Namur et c'est un peu mon premier vrai travail dans mon domaine qui est le marketing. Donc voilà, j'ai commencé il y a 2 semaines chez Génération Engagée en tant que responsable communication. Et jusque maintenant, je dois dire que je m'y plais bien et que les collègues sont plutôt sympas.
Et ton parcours scolaire avant de venir ici, c'était quoi?
Alors, mon parcours scolaire, j'ai commencé à Namur, j'ai fait un bachelier en marketing. Et puis, j'ai poursuivi mes études à Liège, à HEC, dans un master de sciences de gestion, finalité marketing aussi. Mais du coup, j'ai dû faire 1 an de passerelle parce que c'était une haute école. Et après, je suis passée à l'université. Donc j'ai fait mes études en 7 ans au total. Donc, j'étais contente de travailler et de faire un peu autre chose. Et toi, JC, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Est-ce que tu peux aussi te présenter en 2 mots pour ceux qui ne te connaissent pas?
Moi, c'est Jean-Christophe Grotteclaas, j'ai 24 ans, je suis le Benjamin de l'équipe et je suis maintenant chez Génération Engagée depuis un peu plus de 2 ans. J'ai été stagiaire longue durée parce que du coup j'ai fait de l'alternance pendant 2 ans où j'ai eu la chance de faire mon stage ici. Et maintenant, depuis début octobre, j'ai signé mon contrat en tant que responsable membre pour Génération Engagée.
Et comment ça se passe? Est-ce que tu aimes bien aussi l'équipe?
L'équipe est vraiment chouette, on s'entoure tous très bien, c'est très agréable de travailler ensemble. Merci du coup de t'être présenté et je te propose maintenant qu'on passe à la séquence suivante, le sujet d'actu. Delphine, quel est ton sujet d'actu?
Alors mon sujet d'actu, moi, c'est un article de la RTBF qui parle du niveau des élèves en Belgique et du niveau qui est en baisse en Belgique. Et c'est des chiffres assez alarmants, je ne sais pas si tu es un peu au courant, mais il y a plus d'un tiers des élèves belges qui n'atteignent pas un niveau suffisant un peu. Je trouve ça quand même très choquant comme chiffre.
Oui, effectivement, c'est alarmant. Je te rejoins très fort là-dessus parce que moi, mon sujet d'actu, du coup, c'est le rapport PISA. Donc, c'est sorti début décembre. C'est un rapport qui a été fait en 2022 qui montre effectivement qu'en Belgique, il y a une vraie diminution des compétences des jeunes dans les différents domaines, donc le français, les mathématiques. C'est un rapport qui met un petit peu aussi en exergue toutes les compétences à l'international. Donc par exemple, on voit une forte dominance des pays asiatiques dans tout le domaine mathématique. Après, effectivement, c'est alarmant, mais on voit quand même que la Belgique, globalement, est dans une espèce de médiane avec la France, avec l'Allemagne. Donc c'est alarmant en Belgique parce qu'effectivement, le niveau a fort diminué, mais c'est quand même une diminution qui est relativement globale à l'échelle, en tout cas européenne, excepté effectivement certains pays comme l'Estonie qui font partie des grands pays forts en mathématiques, l'Estonie, la Suisse. Mais oui, effectivement, c'est alarmant de voir que les compétences des jeunes diminuent. Mais à ton avis, quelles seraient les causes de cette diminution?
Écoute, de ce que j'ai lu, il y a plusieurs causes. En tout cas, le corps enseignant émet plusieurs possibilités qui fait que les élèves ont un niveau plus bas que nous quand on remonte à il y a quelques années. Premièrement, il parle de la taille des classes. Parce que je ne sais pas toi quand tu étais à l'école, mais nous, c'était quand même relativement des petites classes. On était une vingtaine maintenant.
Exactement.
Ils sont peut-être une trentaine et c'est quand même pas facile du coup quand tu as 30 élèves d'arriver à faire comprendre à tout le monde voilà, un sujet ou quoi. Chacun n'a pas le même rythme. Donc, il y a premièrement cette cause-là. Les professeurs parlaient aussi des réseaux sociaux, que ça pourrait avoir un lien parce que maintenant on est tous sur les réseaux sociaux et on sait que la capacité d'attention a vachement diminué. Enfin, en tout cas, moi je sais bien quand je vais sur Instagram par exemple, j'ai tendance à scroller et même regarder une vidéo YouTube quand t'es pas occupé et tout. On a du mal à rester attentif pendant longtemps et donc ça pourrait être une des causes qui fait que les élèves sont moins attentifs en classe et du coup pourraient avoir un niveau un peu plus bas.
Ah ben c'est sûr que les capacités d'attention diminuent, je pense globalement. Je pense que chez les jeunes, ça diminue très fort. Je constate déjà que chez moi, ben, ce format un petit peu à la TikTok, donc de vidéos très condensées, je sais qu'il y a la même chose sur Instagram avec les réels, sur Facebook maintenant, ils s'y sont mis également. Des formats de vidéos très très courtes, qui se veulent efficaces, mais qui en réalité diminuent quand même grandement l'attention, parce que maintenant on n'aura plus une attention qui va être focalisée sur des petites capsules de 3 minutes grand max et au-delà de ça on a rapidement tendance à perdre le fil. Mais toi qui es en com, comment tu pourrais imaginer une solution grâce justement à ces médias sociaux pour plutôt que ça desserve les jeunes dans leur apprentissage plutôt que peut-être ça les serve?
Oui, ben, maintenant les Reels ou les vidéos TikTok, comme tu dis, sont beaucoup consommées. Et j'ai déjà remarqué, moi qui ai déjà monté des Reels, que tu ne peux pas laisser un plan, par exemple, de plus d'une seconde. Sinon, voilà, les élèves ou les jeunes passent. Donc, c'est en fait, les réseaux sociaux sont ancrés dans notre société maintenant et principalement consommés par les jeunes. Et donc, ça, on ne pourra pas l'enlever et faire machine arrière. Mais du coup, vu qu'ils passent beaucoup de temps sur les réseaux, je sais pas, moi, dans un monde complètement utopie, ce qui serait super drôle, c'est que leurs professeurs se mettent sur les réseaux et font des mini vidéos. Je sais pas, un professeur d'anglais, par exemple, peut faire une petite vidéo. Voilà, aujourd'hui, on voit la différence entre le verbe être et avoir en anglais. Et ça, je suis sûre que les élèves le regarderaient si c'est un format. Donc pourquoi pas donner des formations? Bon, après, je dis pas que tous les profs doivent avoir leur compte TikTok, ce serait très utopiste, je pense. Mais pourquoi pas donner des formations pour avoir des cours un peu plus dynamiques? Parce que quand on parle de capacité d'attention, enfin, je me souviens quand moi j'étais en cours, il y a certains profs où ça dure 2 heures et c'est absolument monotone et t'as juste envie de partir de la classe. C'est pas du tout. T'as sûrement déjà eu ça.
Oui, clairement, je pense que c'est pas majoritaire chez les profs, mais effectivement, il y a certains profs qui sont très monotones, qui ne sont pas forcément intéressants. Et pour des jeunes qui ont des soucis de concentration, effectivement, c'est pas facile. Déjà que c'est pas facile pour ceux qui n'ont pas de problème, alors pour ceux
Oui.
qui en ont, c'est vraiment compliqué. Mais oui, effectivement, ça pourrait être une piste à envisager.
Ou alors un PowerPoint un peu plus dynamique. Je sais que maintenant, enfin, ma maman qui est enseignante a eu des formations vidéo et notamment, elle peut utiliser le logiciel Canva. Pour ceux qui ne le savent pas, le logiciel Canva, c'est un logiciel pour faire des PowerPoint, des visuels principalement. Et on sait faire quand même de très bons visuels pour quelqu'un qui n'est pas professionnel. Donc,
Ouais,
je sais
ouais.
pas, avoir donné en tout cas les moyens aux professeurs d'avoir accès à des formations pour dynamiser un petit peu leurs cours, je pense que ça peut être que bénéfique pour les élèves.
Ouais, effectivement, c'est en tout cas, il est sûr que je vais dire tout ce qui est médias sociaux doit être utilisé dans l'enseignement. Il faut, à mon avis, former aussi le corps enseignant à pouvoir justement utiliser l'image des médias sociaux à bon escient dans l'enseignement. Par exemple, tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Je pense que c'est quelque chose d'hyper intéressant de pouvoir les inclure dans le processus de cours.
Je te rejoins sur l'intelligence artificielle parce que tout le monde doit l'utiliser, ChatGPT, un outil qui est sorti et qui a révolutionné à peu près tous les domaines. Et justement, il faut peut-être apprendre à l'utiliser dans l'enseignement parce que combien de mes amis ont écrit leur lettre de motivation avec ChatGPT et ils le disent eux-mêmes, c'est mieux fait que si ChatGPT les connaît mieux qu'eux-mêmes. Donc pourquoi ne pas utiliser, je sais pas, apprendre aux élèves à utiliser ça ou savoir que ça existe parce que tu peux pas. Enfin, je pense que c'est un peu. Les professeurs ne savent que les élèves l'utilisent, par exemple pour un devoir ou quoi. Donc, essayer de prendre ça en compte pour demander des devoirs,
Oui.
pour les cours. Il faut savoir que les élèves vont l'utiliser et qu'on ne peut pas l'interdire et donc adapter ses cours en fonction de ça.
De toute façon, dans un monde qui va aussi vite que celui dans lequel on vit, c'est, je pense, complètement incongru de se dire, bah, on va interdire tout ce qui est de l'évolution, donc les intelligences artificielles en font bien entendu partie. Effectivement, il y a à peine quelques mois, tout le monde parlait de ChatGPT comme étant la grande révolution du monde. Il y a quelques jours ou quelques semaines, Google a sorti Gemini, qui est la nouvelle intelligence artificielle de Google, qui est sans nul doute une des plus grandes avancées technologiques là-dedans. Et effectivement, on ne peut pas se dire que on va passer à côté et que c'est on va faire comme si de rien n'était et continuer à mettre des œillères en se disant que les élèves ne l'utiliseront pas
Oui.
enfin, tout le monde même dans le milieu du travail, c'est normal d'utiliser les outils qui sont mis à disposition. Et il faut s'en accommoder. Et effectivement, au plus vite on se rend compte de tout ça, et au plus vite on commence à créer des formations pour accompagner les jeunes, pour accompagner les profs à une utilisation intelligente de ces outils, bah, plus vite ce sera effectif. Et la société, je vais dire, pourra évoluer beaucoup plus parce qu'on arrêtera de se cacher les yeux à se dire que non, il y a un problème, mais si on avance tout droit et qu'on le regarde pas dans les yeux, on va passer à côté et il restera sur le bord de la route. Ça peut pas fonctionner comme ça. Et effectivement, le monde va, enfin l'évolution technologique va tellement vite que on prendra une mesure pour essayer de le faire partir, ou en tout cas on prendra une mesure pour essayer de détourner le problème. Il y en aura un nouveau qui apparaîtra le jour même où un décret pourrait être posé. Donc je pense effectivement qu'il faut absolument s'en accommoder et avancer. Mais bon, je parle, mais le temps avance, on n'a plus beaucoup de temps, et je trouverais ça quand même vraiment intéressant de découvrir un petit peu plus. Et donc, ce que je te propose, c'est qu'on passe directement à la séquence suivante, qui est le questionnaire de comptoir. Du coup, en amont du podcast, tu as rempli un questionnaire.
Oui, tout à fait.
Et de ce questionnaire, on est sorti des résultats. Et ces résultats nous disent que si tu étais une femme politique, tu serais une personne intelligente et créative qui aime trouver des solutions innovantes. Est-ce que, selon toi, ce résultat te parle et te correspond ?
Oui, je me retrouve assez dedans et c'est plutôt positif. Donc, tant mieux que je sois cette femme politique-là. Ça me fait très plaisir. L'intelligence, oui. Oui. Le côté créatif, plutôt. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me définit pas mal. Le côté créatif chez moi, c'est un truc que j'essaye de développer. J'ai souvent plein d'idées, je note toutes mes idées, donc c'est un côté plutôt cool. Et l'aspect innovant, ça rejoint aussi un petit peu le côté créatif, donc oui, je me retrouve bien là-dedans. Un aspect où je l'applique quand même pas mal, c'est la vidéo. Donc ça, pour me découvrir un petit peu, c'est une des passions que j'ai à titre personnel. J'aime bien monter des petites vidéos et donc j'aimerais bien développer ce côté-là.
D'ailleurs, en fait, comment tu as fait pour arriver un petit peu à ce job, à ce choix, je vais dire, d'études, donc marketing? Est-ce que tu as eu un parcours où tu savais un petit peu déjà ce que tu voulais faire? Peut-être pas du tout. Moi, mon cas, c'est pas du tout. Donc,
Tu savais pas ce que tu voulais faire comme études?
Ah non.
Eh ben, moi non plus.
Ah ben, voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à faire marketing, communication?
Oula. Eh ben, en humanité, j'étais complètement perdue. Tu sais, quand t'es enfin, ça commence tôt maintenant, mais quand t'es en cinquième humanité, tes parents te demandent tu vas faire quoi plus tard, et je savais absolument pas. Quand j'étais très jeune en primaire, je voulais faire facteur de ma rue, c'était ça mon rêve, sauf que ma rue fait 1 kilomètre, donc c'est quand même long. Et donc ça, c'était en début de primaire. Et puis en cinquième unité, on m'a reposé la question et je ne savais pas du tout, quoi faire, parce que j'avais pas une passion à ce moment-là ou quelque chose qui me plaisait vraiment. Mon frère, par exemple, a toujours voulu faire vétérinaire. Depuis tout petit, il sait qu'il voulait faire ça. Moi, j'avais pas cette passion-là, quoi. Il y a rien qui m'animait vraiment. Donc, j'ai un peu choisi marketing par élimination. Je me dis, les sciences, c'est pas du tout pour moi. J'aime bien quand même les langues. Donc, ouais, j'ai un pote qui avait fait ça, donc je lui ai demandé de m'en parler un petit peu plus. Et je me suis dit, je vais tenter du coup ça. Mais je le faisais pas parce que réellement, c'était ce que j'avais envie de faire. Je le faisais parce que je n'avais pas d'autre idée, et parce que c'est compliqué de savoir ce que tu veux faire à ce moment-là. Enfin, je sais pas toi si comment tu en es aujourd'hui, ou si tu penses que c'est facile de trouver ce que tu veux faire, mais pour moi, ça a été très compliqué.
Bah du coup, non, moi j'ai eu un parcours un petit peu chaotique où j'ai fini mes secondaires en comptabilité, puis j'ai embrayé sur du droit, j'ai embrayé sur instituteur, puis j'ai réalisé ton rêve, j'ai été facteur.
Ah, génial.
Pas de ta rue.
Non.
ni de la mienne d'ailleurs, mais... Mais en tout cas, j'ai été facteur pendant un an. C'est compliqué comme boulot, vraiment. On s'en rend pas compte, mais vraiment, c'est un boulot qui est vraiment compliqué, qui est demandant.
Et comment t'es arrivé à faire facteur ?
J'habitais tout seul et je savais pas où m'orienter. Je ne savais pas quoi faire comme études. Je savais que je voulais reprendre des études, mais je ne savais pas quoi faire. Donc je me suis dit, pour pas rester tout seul chez moi, un peu à déprimer parce que je savais pas quoi faire, je me suis dit, il faut que je trouve un boulot. J'ai regardé. C'est un des boulots que j'ai trouvé. J'ai fait ça. J'aime beaucoup marcher. Donc, au début, je trouvais ça très cool. Mais c'est quand même vraiment demandant. C'est fort fatigant quand même comme boulot à la fin. Puis, j'ai arrêté d'être facteur. J'ai recommencé des études en ingénierie industrielle, dans lesquelles je ne trouvais pas trop de sens parce qu'il me manquait vraiment très fort cette fibre sociale que je ne retrouvais pas du tout dans ces études. Et donc, je suis parti faire de l'alternance à l'EFP. Donc, c'est un centre de formation. Et effectivement, donc, c'est grâce à ça que j'ai eu la chance de faire mon stage en alternance pendant 2 ans chez Génération Engagée. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce stage, j'ai appris beaucoup de choses. Et du coup, grâce à ça, je suis aujourd'hui derrière ce micro à faire ce podcast avec toi. Et c'est très cool.
T'as fait plein de choses alors, ouais, avant d'en arriver là.
J'ai fait plein de choses avant d'en arriver là. Et du coup, la finalité, c'est j'ai fait une formation plus ou moins dans le même domaine que toi finalement. Parce que du coup, ma formation, c'est de la relation publique.
Oui.
Ce qui est énormément de communication aussi. Et aujourd'hui, je ne travaille pas proprement parler dans la communication en tant que chargé de com, mais je travaille quand même dans la communication parce que responsable membre, c'est de la communication directe.
Ah, oui.
Donc, il n'y a pas d'interface à gérer. Je pense que c'est quelque chose qui, moi, me convient plus. Mais en tout cas, c'est quand même un parcours du combattant. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un grand parcours du combattant de pouvoir trouver une orientation qui nous plaît. Mais souvent, c'est assez compliqué, assez complexe de trouver des orientations intéressante ou de savoir ce qui existe. Mais du coup, à force de parler, je me dis que on va passer directement à la séquence suivante parce qu'on sera de nouveau amené à parler un petit peu de cette réflexion dans la séquence de « Que ferais-tu si tu étais ?» Delphine, si tu avais une baguette magique et que tu étais ministre de l'enseignement pendant une semaine, qu'est-ce que tu ferais en agitant ta baguette ?
Oula, mais vu qu'on a parlé du fait que j'étais une femme politique intelligente, je pense que je vais prendre la bonne décision. Et dans un monde utopiste, bien sûr, voilà, parce qu'il y a plein de choses à mettre en place, mais si j'étais ministre de l'enseignement, je pense que la première chose que je ferais, c'est vraiment allouer un plus gros budget aux professeurs, au corps professoral, aux écoles, parce que c'est quand même grâce à ça qu'ils vont pouvoir améliorer toutes les choses qui ont à être améliorées. Donc par exemple, on en parlait tout à l'heure, mais réduire le nombre d'élèves dans les classes. Donc pour ça, il faut plus de bâtiments et donc voilà, allouer un plus grand budget, amener plus de bâtiments, amener aussi des formations pour les professeurs. Et je pense qu'en faisant ça, déjà bêtement, en ayant une taille de classe plus petite et moins d'élèves, eh ben ça peut permettre d'axer les cours sur un côté plus pratique et ça va permettre aux élèves d'avoir plus de sens dans la manière d'enseigner, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui manque. En tout cas, pour moi, quand j'étais en humanité, on apprend plein de choses pour passer un examen et pour les oublier après. Et je trouve que ça, c'est vraiment pas une bonne méthode pour se dire on va en fait apprendre un truc pour l'oublier. Il faut donner du sens à ce que les élèves étudient. Par exemple, je sais pas, quelque chose de concret où on dit je vais étudier les maths pour aller faire les soldes dans les magasins. C'est bête, hein, mais comme ils ont un objectif, et ben pouvoir utiliser ce qu'ils apprennent dans la vie de tous les jours, ça va faire qu'ils vont être plus motivés de 1, je pense, et le retenir de 2.
Ok. Et est-ce que tu as d'autres mesures que tu ferais pour pouvoir justement aider les jeunes à avancer et peut-être trouver leur voie?
Il y a une chose que je trouve qui manque vraiment, en tout cas dans l'enseignement et pour ce qu'on parlait du choix d'études par la suite, je trouve que la cassure entre la réto et la première aux études supérieures, elle est dure. Elle est vraiment là, donc ce que je ferais si j'étais ministre de l'enseignement, c'est apporter, je sais pas, des cours supplémentaires ou en tout cas avoir un genre de passerelle, je parle pas d'une année en plus, mais d'une transition plus facile entre la réto et la première, peu importe les études. Parce que je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais moi c'était quand même quelque chose de violent. Ma dernière année, la réto, je travaillais pas beaucoup et le niveau après, c'est complètement autre chose. Et je trouve qu'on n'est pas du tout préparé en humanité à être lancé. On est vraiment lancé dans le bain des études supérieures. Et
je pense aussi qu'il faudrait peut-être changer des choses ou en tout cas aider l'orientation des jeunes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour donner plus d'alternatives aux jeunes, leur donner un plus grand panel, je vais dire, de choix ou en tout cas de connaissances sur où s'orienter pour essayer de justement ne pas, entre gros guillemets, perdre de temps. Peut-être aussi dédramatiser l'alternance. Moi, j'ai fait de l'alternance, j'ai trouvé que ça avait quand même énormément d'intérêt. Donner peut-être plus de pratique aux jeunes. C'est parce que toi, tu en penses.
Ah, je trouve que la pratique, c'est essentiel. C'est comme ça que tu sais si tu aimes ce que tu fais ou non. Il y a beaucoup de jeunes dans les études supérieures maintenant qui, après 5 ans, se disent « Ah ben, en fait, je n'aime pas. » Et donc, je vais complètement complètement changer d'études et c'est pas normal. Si tu veux savoir vraiment qu'un métier est fait pour toi, il faut mettre de la pratique en place. Et l'alternance, comme tu as fait, je trouve ça génial parce que tu vois directement si ça te convient et t'es lancé un peu dans le grand bain direct.
Donc, tu es d'accord avec l'adage, c'est en forgeant qu'on devient boulanger.
Tout à fait.
Ok.
Et forgeron,
oui, c'est les deux. Ça peut être les deux.
Ben justement, en parlant de forgeron, c'est un métier qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est un métier qu'on aurait très bien pu faire, toi et moi. Mais on ne le connaît pas parce qu'on ne nous dit pas à l'école, c'est possible de faire forgeron.
Ben oui, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement connaître ce métier de forgeron, ou bien d'autres, parce qu'il existe énormément de métiers dont on ne connaît pas. Je sais que tu m'avais déjà parlé de scaphandre, de scaphandrier.
Scaphandrier, tout à fait. Ben, c'est un métier que j'aurais peut-être voulu faire si je savais que c'était possible, mais dans l'école où j'étais en tout cas, tu finissais soit médecin, soit en sciences économie, soit en droit, soit professeur. Mais on ne te parle pas de tous les métiers qui existent, et c'est dommage parce que du coup, tu n'as pas cette ouverture de te dire « Ah ben en fait, je peux faire ce métier-là », parce que je trouve qu'on est fort restreint dans les métiers qu'on connaît et on ne met pas en avant justement tous les métiers qu'il est possible de faire.
Justement, en partant de ce postulat, toi, en fin de secondaire, qu'est-ce que tu aurais aimé que l'enseignement, en tout cas ton école, mette en place en fin de secondaire, justement, pour pouvoir t'offrir un espèce de grand panorama, en tout cas une grande vue d'ensemble sur ce panel de métiers qui est immense, qui n'en finit pratiquement jamais et dont on n'entend jamais parler.
Je sais que nous, en tout cas, dans mon école, on avait une journée où on pouvait suivre un professionnel dans sa journée de travail classique. Et j'avais suivi un architecte parce que c'était un ami de mes parents. Au final, j'ai pas du tout fait ça après. Et je trouve qu'une journée, c'est trop peu pour découvrir vraiment tout un métier. Et alors, on n'avait qu'un seul métier à découvrir. Donc, j'aurais aimé, je sais pas, qu'on nous parle un peu, qu'on aille chercher plus loin, qu'on nous parle de vraiment tout ce qui était possible. Parce qu'on fait la blague un petit peu maintenant. C'est utopiste de dire je vais aller sauver des baleines en Australie. Mais non, en fait, si tu fais des études dans ce milieu-là, c'est tout à fait possible. Et c'est juste qu'on est cantonné un peu aux métiers qui sont autour de nous et qu'on ne sait pas la possibilité qui s'offre à nous et tous les métiers qui s'offrent à nous. Et donc, j'aurais aimé que l'école prenne plus de temps parce qu'un jour, c'est trop peu pour savoir ce que tu veux faire plus tard et ça va déterminer toute ta vie après. Donc j'aurais aimé qu'on fasse, je sais pas, une semaine par exemple où on découvre des jobs. Je sais qu'aux États-Unis ils font beaucoup ça où les parents viennent à l'école parler de leur travail et je trouve ça génial parce que tu vois un petit peu tous les acteurs de la société, quels sont leurs travails, quelles sont leurs journées, qu'est-ce qui est possible de faire. Donc c'est à l'école, je trouve, de mettre les ressources nécessaires et les moyens nécessaires pour ouvrir l'esprit des élèves et se dire ben voilà, tous ces métiers-là existent. Il y a énormément de métiers en pénurie aussi. On parle des professeurs à l'heure actuelle. Ben, c'est à l'école, du coup, de former les élèves et de dire, ben voilà, découvrez un peu le métier de prof. Qu'est-ce que... On voit un peu le métier dans l'aspect global, mais qu'est-ce qu'il y a au fond de ça? Qu'est-ce que ça représente? Et je trouve que ce serait hyper intéressant, en fait, de mettre l'accent sur des métiers en pénurie. Il y a aussi des métiers, par exemple les métiers de la construction, de la logistique ou de l'horeca encore, qui sont des métiers très recherchés. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas s'ils sont en pénurie? On devrait en parler dans les écoles.
Mais d'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais les engagés, par exemple, ont une proposition qui est de systématiser une approche du monde professionnel en fin de parcours scolaire secondaire pour justement donner une vision un peu plus pragmatique aux jeunes de ce qu'est le monde professionnel et de ce que sont les orientations qu'on leur propose.
Ah bah c'est génial, c'est une très bonne chose, je trouve. Parce que c'est vrai que quand on sort des études, dans des études souvent très théoriques, bah y a beaucoup de gens, en tout cas moi je l'ai ressenti, où on ressent le syndrome de l'imposteur dans ton premier travail. Parce que comme tu n'as pas pu mettre en pratique tout ce que tu as appris, et ben c'est compliqué et tu te sens pas légitime dans ton travail. Donc je trouve ça très très bien qu'on puisse avoir des stages et qu'on puisse, comme on en a parlé, se rendre compte de vraiment la réalité du travail et si ça te plaît ou non.
Tout à fait d'accord avec toi. Le temps passe et il va être temps de tout doucement clôturer. Donc on va passer à la dernière séquence, la personne inspirante. Si tu devais choisir une personne inspirante, laquelle serait-elle?
Alors, moi, c'est pas vraiment une personne qui m'inspire, mais c'est plutôt les gens qui osent prendre des risques et qui se battent pour leurs rêves. Ça, je trouve que c'est vraiment génial et ça demande beaucoup de courage. Pour donner peut-être quand même un exemple, je sais pas si tu sais, mais Steven Spielberg, qui est hyper connu dans le milieu du cinéma américain, il s'est fait recaler d'une école de théâtre 3 fois de suite. mais il s'est quand même battu parce que c'était un rêve et qu'il y croyait et qu'il avait confiance en lui aussi. Et maintenant, ben, on le connaît tous, Steven Spielberg, donc c'est vraiment hyper inspirant. Et les gens qui osent vraiment prendre des risques, je trouve que c'est très courageux de leur part. Et en général, quand tu prends des risques, la vie te le rend plutôt bien. En général, bien sûr, mais voilà, ça, c'est des gens qui m'inspirent. J'ai par exemple une de mes amies proches qui n'a pas du tout eu un parcours d'études classiques. Elle est partie à Paris pour faire une école de danse. Donc elle sort complètement des sentiers battus. Et on le sait, hein, on le sait tous, le milieu artistique, c'est pas toujours facile au début. Tu galères souvent à avoir un travail, à trouver un contrat, c'est assez compliqué. Mais elle s'est vraiment battue et c'est vraiment pour le coup une passion. Et là, elle vient d'être prise pour un spectacle de renommée quand même. Donc je suis hyper fière d'elle et je trouve que c'est génial et c'est tellement inspirant ce genre de personnes. Ceux qui se battent pour leurs rêves, voilà, c'est ce genre de personnes-là qui m'inspirent. Et toi, JC, quel genre de personne t'inspire ?
Eh bien, je dirais que si je dois choisir une personne, c'est assez compliqué. Maintenant, je dirais quand même, étant quand même un grand mélomane, je choisirais Jacques Brel pour, ah oui, pour la poésie, pour tout ce qu'il a amené dans le monde de la musique. Et il faut bien le dire, il est belge, quelle fierté. Oui, je dirais Jacques Brel parce que c'est mon chanteur préféré et je trouve qu'il a amené énormément au monde de la musique. Autant en musique en réalité que philosophiquement. Je trouve qu'il a beaucoup de valeurs qui me ressemblent. La fidélité, il fait la promotion de la fidélité, mais en réalité pas uniquement une fidélité amoureuse, en fait une fidélité simple entre potes, entre collègues, entre tout le monde en fait. C'est cette fidélité aussi, cette authenticité que tu as à être toi-même et à être fidèle à tes valeurs, à être fidèle à ce que tu dis. Et je trouve que c'est quelqu'un de très inspirant là-dedans. Eh bien Delphine, merci beaucoup du coup d'avoir accepté cette invitation.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Merci pour cet échange et je ne sais pas si tu as un dernier mot pour nos auditeurs.
Oui, bah le mot de la fin, ce serait trouver du sens dans ce que vous faites, engagez-vous dans des mouvements de jeunesse, apprenez à vous connaître et faites quelque chose qui a du sens.